que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, il est toujours surprenant de constater la force avec laquelle le passé éclaire le présent. Le philosophe américain George Santayana l'a formulé ainsi. Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le revivre. Est-ce vrai pour la crise écologique multiforme que nous traversons? Oui, mille fois oui. L'engouement actuel de planter des millions d'arbres pour atténuer le dérèglement climatique, par exemple, est une obsession qui remonte, figurez-vous, à la fin du XVe siècle. C'est l'une des découvertes que l'on peut faire en lisant la passionnante enquête des historiens Jean-Baptiste Fressot et Fabien Locher, « Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du XVe au XXe siècle » publiée aux éditions du Seuil. C'est surprenant de voir à quel point la maîtrise du climat était une obsession des décideurs politiques jusqu'au milieu du XIXe siècle, un argument même pour coloniser les Amériques et l'Afrique et imposer une manière d'habiter la Terre qui fait encore des ravages aujourd'hui.
C'est pas du vent sur RFI.
À peine installé à la Maison Blanche, Joe Biden se met déjà au travail. Dans le bureau Oval, les premiers décrets de sa présidence sont prêts à être signés.
Nous allons prendre des mesures audacieuses et donc nous commençons dès aujourd'hui. Donc je suis très fier des décrets que nous allons prendre. Aujourd'hui, je vais tout d'abord remplir les promesses que j'ai faites au peuple. Le troisième décret que je vais signer, c'est un engagement que j'ai pris et qui concerne le retour dans l'accord de Paris à partir d'aujourd'hui.
C'est l'événement médiatique de cette semaine. Joe Biden est devenu hier le 46e président des États-Unis, qui vont donc réintégrer l'accord de Paris. Bonjour Jean-Baptiste Fressot.
Bonjour.
Bonjour Fabien Locher.
Bonjour.
Donc Jean-Baptiste Fressot, vous êtes avec nous en studio. Fabien Locher est avec nous en distance, puisque nous n'avons le droit qu'à un seul invité compte tenu des conditions sanitaires en studio. Vous êtes tous les deux historiens et chercheurs au CNRS et vous venez de publier « Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du XVe au XXe siècle » aux éditions du Seuil. Alors comment est-ce que les historiens que vous êtes réagissent à cette arrivée au pouvoir de Joe Biden, Jean-Baptiste Fressot? Est-ce que c'est un événement si important que cela à l'échelle de l'historien que vous êtes?
C'est un événement réjouissant, c'est un événement important politiquement. Après, sur l'histoire du climat à long terme, c'est compliqué parce que, évidemment, le futur du climat dépend de logiques techniques, économiques, de coûts, mais aussi de logiques politiques. En 1993, Bill Clinton avait voulu taxer davantage les carburants et il avait tout de suite perdu les élections. Et on fait face à une Amérique qui est encore très divisée. Donc, il faut voir ce que Joe Biden pourra faire dans sa mandature.
Fabien Locher.
Oui, effectivement. Alors, je suis d'accord, c'est vraiment un motif pour se réjouir. Hein. Et j'allais dire, il y a deux aspects. Il y a le volet international avec le retour des États-Unis dans le système des COP et dans l'accord de Paris. Et puis, il y a aussi ce que Biden va faire aux États-Unis même. Là, ce qui va être immédiatement en jeu, c'est la question de savoir si on va ou pas ouvrir des espaces qui étaient auparavant protégés à l'exploitation pétrolière. Donc, je veux dire qu'il y a une dimension aussi domestique, comme on dit, ou disons nationale, importante dans ce retour à une normalité du gouvernement aux États-Unis. Donc deux aspects, un aspect international, un aspect national qui nous pousse à nous réjouir.
Alors prenons un peu de recul maintenant. Dans votre livre, qui est une grande enquête, hein, vous démontrez que les réflexions sur le changement climatique émergent en Occident à la fin du XVe siècle, au début des colonisations, finalement, Jean-Baptiste Fressot, qui crée ce que vous appelez un choc écologique. Expliquez-nous.
Alors, disons que les premières réflexions sur le changement climatique en Occident, effectivement, elles remontent à Christophe Colomb lui-même, en 1494, lors de sa deuxième expédition. Il est au large de la Jamaïque et il subit des orages et il est extrêmement impressionné par ce phénomène. Et son raisonnement, c'est de dire, c'est un environnement qui est parfait, hormis ce problème de trop d'humidité en été, mais quand on aura coupé les arbres, comme on l'a fait aux Canaries, à Madère, qui avait été colonisé il y a 50 ans, en gros, par les Espagnols et les Portugais, on aura le même climat que dans ces îles, qui sont alors effectivement des espaces qui ont été les premiers, en tout cas où on expérimente ce choc écologique, c'est-à-dire l'arrivée d'Européens sur des terres qui sont alors vierges. Madère, c'est une île vierge, il n'y avait pas d'humains auparavant.
Alors Madère, vous expliquez quand même que le gouverneur de l'époque doit se réfugier dans la mer tellement l'île flambe.
Alors voilà, il y a tout plein de petits récits qui commencent à émerger autour de ce choc écologique. Et effectivement, Madère, donc, c'est une île vierge, et donc pour la cultiver, les colons mettent le feu. Et il y aurait eu un incendie énorme. Alors, suivant les sources, c'est de 3 jours à 3 ans. Évidemment, il y a une emphase. Mais en tout cas, il paraît que le gouverneur était obligé, effectivement, de rester dans l'eau pour éviter de brûler avec les arbres. Mais le point intéressant, c'est qu'en fait, ces îles-là deviennent des capitales du sucre. C'est vraiment des grands centres de production sucrière qui rapportent énormément d'argent aux Espagnols et aux Portugais. Et en fait, ce que Colomb dit, c'est qu'on va pouvoir faire exactement la même chose aux Caraïbes.
Alors Fabien Locher, il y a une idée forte qui domine du 15e au 19e siècle comme une sorte d'obsession parallèle, j'ai envie de dire. C'est la thèse du scientifique et philosophe Georges-Louis Leclerc Buffon. Dans son Histoire naturelle, le best-seller de l'époque, il démontre que la Terre est en train de se refroidir et va vers ce qu'il appelle une mort thermique. Alors expliquez-nous cette angoisse de l'époque.
Effectivement, alors d'abord Buffon, un grand naturaliste de la fin du XVIIIe siècle, qui a écrit une histoire naturelle, un best-seller du siècle des Lumières, très connu et lu dans le monde entier, ou dans l'Europe entière, mais même au-delà. Et il a une grande théorie de la Terre qui explique que la Terre, c'est un bout de soleil qui a été arraché et qui se refroidit progressivement. Donc ça, ce refroidissement, au début, il est bénéfique, ce qui permet aux espèces vivantes et à l'homme d'émerger, de se développer, mais explique Buffon, dans le futur, la Terre va se refroidir tellement que finalement toute vie sera supprimée. Et ce qui est intéressant chez Buffon, c'est qu'on est vraiment dans une pensée dans laquelle le temps géologique et le temps humain ce sont deux choses commensurables qui se passent ensemble. On est sur des échelles de dizaines de milliers d'années. Donc le futur refroidissement et la future mort thermique de la Terre, c'est quelque chose que les sociétés humaines, dit Buffon, vont devoir affronter. Alors ce que Buffon dit, c'est que c'est une mort qui est inéluctable, sauf que les sociétés européennes ont un pouvoir, un levier, en fait, c'est d'améliorer le climat pour retarder finalement cette mort inéluctable. Donc il y a une dialectique chez Buffon entre l'idée que le climat se refroidit inéluctablement et l'idée selon laquelle les sociétés européennes peuvent, par leur agir climatique, repousser l'échéance.
Oui, c'est effrayant cette angoisse, du coup, oppresse un peu tout le monde et motive le déploiement d'une science incroyable avec la multiplication des thermomètres, l'étude des glaciers, de la botanique, Jean-Baptiste Fresseau.
En fait, donc la fin du XVIIIe siècle, c'est un moment d'émergence de ce qu'on appelle maintenant la climatologie historique, en gros l'étude du climat à travers le temps à l'échelle de plusieurs siècles. Et pour les savants qui font ça, c'est pas simplement qu'ils sont curieux, c'est que ce qu'ils veulent, c'est renseigner le futur de la Terre. Et d'ailleurs, les Suisses sont particulièrement dynamiques sur ce terrain-là, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, ils voient les glaciers avancer. Et finalement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est aux premières loges de cette mort thermique du globe qu'a annoncé Buffon ? Donc, c'est des immenses questions eschatologiques, d'enjeux de c'est quoi le futur de la Terre ? C'est quoi la fin du monde, etc. qu'on étudie à travers cette question de la climatologie historique. Et ce qui est impressionnant, effectivement, c'est la qualité des savoirs qui sont produits à la fin du XVIIIe siècle. C'est à ce moment-là qu'on va se mettre à étudier donc très précisément l'avancée mais aussi le recul des glaciers, qu'on va étudier l'évolution de la végétation en montagne, qu'on va étudier les possibilités d'utiliser les sources historiques pour enseigner l'évolution du climat. Et disons, l'intérêt pour cette science-là, c'est à la fois ce que je vous ai dit à propos de penser l'évolution du globe, mais c'est aussi des questions très concrètes, parce qu'on est dans des sociétés qui sont massivement agraires, pour lesquels le changement climatique est une menace énorme. C'est-à-dire que à chaque mauvaise récolte, on peut avoir des émeutes frumentaires, ce qui peut entraîner une révolution. Donc c'est des sociétés qui sont vraiment très vulnérables de ce point de vue-là. Et même ne serait-ce que pour aussi un grand propriétaire terrien, est-ce que, par exemple, les oliviers gèlent en Provence en 1784, est-ce qu'il faut replanter des oliviers ? On a besoin d'avoir un peu de prédiction à l'horizon 20-30 ans pour savoir si ça vaut le coup. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, à la fin du XVIIIe siècle, il y a vraiment un effort scientifique considérable pour essayer de comprendre les dynamiques du climat.
Et alors, il y a une idée qui émerge donc du coup comme une obsession, c'est qu'il faut absolument maîtriser la nature et une certitude scientifique renforcée par la suite par une immense catastrophe naturelle.
Il y a près de 200 ans, la plus grande explosion volcanique jamais enregistrée a secoué notre planète. « elle était 6 fois plus violente que celle du Krakatoa et du Vésuve combinés. L'éruption du Tambora en Indonésie a laissé une marque indélébile dans l'histoire du monde. Aucune éruption volcanique connue n'a fait autant de morts. Mais ce n'était que le premier acte du drame. Un an plus tard, un froid mortel s'abattait sur l'hémisphère nord. Le ciel couleur rouge sang inspira le peintre Turner. Cette année-là, dans toute l'Europe, ils furent des centaines de milliers à mourir de faim. Peut-il y avoir un lien entre ces événements? Comment un simple volcan indonésien a pu provoquer un été sans soleil?
Un extrait du documentaire « Un été sans soleil » réalisé par Elmar Bartimae en 2005. C'était donc le 10 avril 1815, le volcan Tambora entre en éruption en Indonésie et les milliards de tonnes de matière qui ont été expulsées finalement vont perturber les années suivantes le système atmosphérique planétaire, Jean-Baptiste Ruisseau. Et ça va aussi effrayer les gens parce que les conséquences sont énormes en Chine, en Inde, en Europe.
Alors, il y a des conséquences démographiques désastreuses déjà localement. 3 royaumes sont rayés de la carte. En Chine, on a aussi des très mauvaises saisons. En Inde, maintenant, les scientifiques font le lien avec l'apparition des premières épidémies de choléra. Donc, c'est effectivement un événement global. Et en Europe, ça suscite alors, effectivement l'année sans été. Avec, on voit bien aussi la différence de vulnérabilité en fonction des pays. Par exemple, l'Angleterre s'en sort très bien. Ou pas trop mal en tout cas. Et en Suisse, par contre, c'est absolument dramatique, en fonction de la capacité à importer des grains pour pallier aux mauvaises récoltes. Mais nous, ce qui nous a intéressé à propos du Tambora, c'est que ça lance tout un tas de réflexions sur qu'est-ce qui a bien pu causer cette année aussi froide et désastreuse. Et il y a tout plein de théories qui sont proposées. Mais disons que l'essentiel des débats porte sur des causes anthropiques, des causes qui sont humaines. Si on a trop déforesté dans le passé. Et en France, l'enjeu du débat, c'est qu'est-ce que la Révolution a fait de nos forêts? Et donc, il y a tout un discours royaliste et ultra-royaliste qui explique que la Révolution française a été dévastatrice pour les forêts et donc pour le climat. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que cet événement, qui est évidemment un événement purement naturel, il est interprété au début du 19e siècle comme quelque chose qui est voilà, un changement climatique humain.
Alors, la Révolution française, Fabien Locher, qui a des origines climatiques, finalement?
Alors ça, c'est un sujet qui est assez débattu chez les historiens. C'est vrai que le déclenchement de la Révolution française... Dans les facteurs de déclenchement de la Révolution française, il y a une série de saisons calamiteuses dans les années 1780. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que des saisons calamiteuses, on en avait déjà eu au XVIIIe siècle, qui n'avaient pas déclenché de révolution, la Révolution française. Donc, c'est bien sûr un cocktail, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les années 1780-1790 connaissent des saisons difficiles, disons, qui vont inciter à ce grand débat qui va s'ouvrir à partir de 1789, sur la question de savoir si le climat de la France est en train de changer, de se dégrader. Et ce que vont faire les révolutionnaires dès 1789, c'est de mettre en accusation la monarchie en disant « la monarchie, elle n'a pas su gérer les forêts de la France ». Comme les forêts ont une action sur le climat, eh bien, du coup, la monarchie a mené à une dégradation des climats de la France. Or, on voit l'importance de cette mise en accusation, hein, parce que ça veut dire que si la monarchie a dégradé les climats de la France, ça veut dire que la monarchie est à la cause des pénuries alimentaires, éventuellement des disettes, des manques de grains. Donc, c'est une accusation très, très grave qui peut être résumée ainsi. Finalement, la monarchie est un régime qui détruit la nature.
Alors, 86 jours de gel à Paris durant l'été 1789, le prix du pain qui flambe. Et le pain, à l'époque, c'était le trois quarts des dépenses des gens, quoi.
Bien sûr, c'est la base de l'alimentation. Et là, on a un bon exemple voilà, d'un lien qui est toujours compliqué à établir, mais d'un lien indirect, disons, entre un phénomène naturel et puis le déclenchement de grands troubles politiques. Ensuite, dans les décennies qui suivent, cette mise en accusation, comme l'a dit Jean-Baptiste, va être reprise par les royalistes en l'inversant, en fait, en disant « non, en fait, c'est bien la Révolution qui a porté atteinte aux forêts de la France et qui a amené à cette terrible phase climatique de 1815-1825, où entre le Tambora et le grand hiver de 1820, on a une série de catastrophes que les royalistes mettent sur le compte des paysans de l'an 2.
Voilà, le climat étant déjà un sujet hautement politique et cette vision de l'homme occidental qui doit façonner la nature, la maîtriser pour se protéger des aléas climatiques va aussi servir d'argument à la colonisation des Amériques et de l'Afrique. On en parle juste après ça. As the trains in New York City roll thunder down the line, the teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses. Phénomène Soul, né dans le bayou de la Louisiane, le groupe Duran Jones and the Educations dans C'est pas du vent sur RFI.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous recevons les historiens Jean-Baptiste Fresseau et Fabien Locher pour leur livre fascinant Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle, publié aux éditions du Seuil. La maîtrise du climat est donc une obsession qui conditionne l'action des élites occidentales du 15e au 20e siècle, surtout les Britanniques, les Français et les Espagnols qui se considèrent en haut de l'échelle de la civilisation, notamment parce que justement ils se considèrent, Jean-Baptiste, Fresseau, capable de maîtriser le climat avec le déboisement et l'agriculture.
Il faut bien voir que dans toute la première partie du livre, le discours du changement climatique est un optimisme. Et c'est un discours impérial. L'enjeu, c'est d'expliquer que les populations en Amérique, les autochtones, n'ont pas amélioré le climat parce qu'ils n'ont pas vraiment travaillé la terre et ce faisant, ils ne possédaient pas vraiment la terre. Donc c'est vraiment un argument de souveraineté. C'est pour justifier l'appropriation de la terre par les Européens, que ce soit en Nouvelle-Espagne, en Nouvelle-France ou en Nouvelle-Angleterre. C'est aussi un argument qui est lié à une curiosité. Comment ça se fait qu'on ait des climats si différents en Amérique et en Europe à même latitude? C'est un peu la surprise de Christophe Colomb face à ces orages d'été dans les Caraïbes. Donc c'est tout ça qui fait que le discours du changement climatique va devenir vraiment une pièce importante de la philosophie politique, une pièce importante de la doctrine impériale à partir du XVIe siècle en Europe.
Alors Fabien Locher, l'homme occidental peut conquérir donc toutes les terres du monde et façonner la création divine en fonction de ses besoins, avec donc cet instrument qui est la coupe ou la plantation des arbres.
Oui, alors c'est vraiment une espèce d'idéal, on pourrait dire aujourd'hui, de géo-ingénierie impériale, l'idée selon laquelle les colonisateurs vont pouvoir ajuster, comme le dit Buffon, la température du pays au point qui leur convient. Et puis aussi, derrière, il y a quelque chose qui nous a frappé, dont on parle dans le livre, c'est que ça introduit une échelle de civilisation. Alors, on connaît les échelles de civilisation classiques qui vont avec la colonisation, en disant, voilà, les races sont inégales, les peuples qui ne croient pas en la chrétienté sont inférieurs aux autres, ou alors, certains peuples sont plus irrationnels que d'autres. Là, on a une espèce de hiérarchie des civilisations qui est basée sur l'agir climatique, avec l'idée que les Européens, en gros, sont au sommet parce qu'ils ont une capacité à agir sur le climat pour l'améliorer, que certaines populations ne savent pas agir sur le climat, typiquement les Indiens d'Amérique. Et puis, encore pire, que certaines civilisations, notamment moyen-orientales, arabes, eh bien, non seulement sont incapables d'agir sur le climat, mais même parfois le détruisent, le dégradent, parce qu'ils sont incapables finalement de gérer la nature. Donc il y a une échelle de civilisation avec comme index, en quelque sorte, l'agir climatique, qui se structure dès la fin du XVIIIe siècle.
Jean-Baptiste Risseau.
Si je peux ajouter, cette échelle elle est d'autant plus puissante que les climats à cette époque façonnent profondément les races. À l'époque, le climat, c'est pas simplement les caractères météorologiques des lieux, c'est quelque chose qui vraiment façonne le vivant, y compris les humains. Et donc, les populations orientales, elles ont à la fois dégradé le climat, mais ce faisant, elles ont produit leur propre dégénérescence raciale. Donc c'est un discours très puissant pour effectivement faire une hiérarchie des races et des civilisations.
Et du coup, c'est une attitude qui va créer dans l'imaginaire mondial ce que l'ingénieur et philosophe Malcolm Ferdinand, auteur de Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen, aux éditions du Seuil, appelle l'habité coloniale.
L'un des premiers éléments de l'habité coloniale, on va usurper les terres qui sont occupées par d'autres personnes, notamment des autochtones, afin d'y imposer une autre conception, une conception proprement coloniale de la manière de se penser sur Terre et d'être en relation avec les autres personnes du monde, dans le but d'exploiter, d'engendrer des richesses pour une petite partie de l'humanité. L'habité coloniale, c'est ce processus où on va remplacer un ensemble de communautés humaines et non humaines, d'écosystèmes à la mesure des besoins des êtres humains qui habitent par un ensemble rangé de monocultures d'exportation qui n'ont pas vocation à prendre soin ni des habitants, ni de la terre elle-même, mais vraiment vocation à fabriquer de la richesse pour une petite partie.
Alors ce qui incarne bien cela, c'est la plantation, hein, vous en parlez beaucoup dans votre livre, c'est-à-dire ces exploitations intensives de canne à sucre, de tabac, d'indigo, dans lesquels sont employés les esclaves, et qui là aussi façonne l'imaginaire tant de ceux qui l'ont conçu que de ceux qui la subissent.
C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas simplement un ensemble de caractéristiques en termes de configuration de la plantation, mais c'est vraiment une manière de se penser dans le monde, une manière de se rapporter à la terre. Et il a été devisé que dans les îles, en tout cas des premières îles caribéennes, ces îles n'allaient servir qu'à approvisionner ou qu'à alimenter les désirs de richesse d'une petite partie des grandes compagnies orientales. Et le problème est qu'on a des continuités encore aujourd'hui où on ne peut penser notre rapport à la terre que sous ce régime de l'exploitation à travers la monoculture intensive d'exportation qui, encore une fois, n'a pas vocation à prendre soin des habitants de l'île ni de la terre. Et cette conception de l'habiter sur Terre se retrouve effectivement aujourd'hui en Indonésie, en Australie, dans les Amériques, en Europe aussi, Il se trouve que, voilà, 1492 marque un des moments clés où on affirme cette manière d'habiter la Terre.
Jean-Baptiste Risseau.
Et c'est justement cette manière coloniale d'habiter la Terre qui est d'emblée critiquée, en fait, par le vocabulaire climatique. C'est-à-dire que les naturalistes au XVIIIe siècle ont tout à fait conscience du caractère dangereux, non soutenable, de ce type d'exploitation. Pierre Poivre, sur l'île de France, à savoir l'île Maurice maintenant, a tout un grand discours climatique sur l'effondrement climatique à cause des colons.
Pierre Poivre, qui avait aussi quand même des plantations et des esclaves.
Évidemment, tout le monde est partagé et a une certaine ambiguïté. Et un autre exemple assez frappant, c'est un discours sur une critique de l'indigo, de la plantation d'indigo et autres en Haïti, où on a déjà cette trope en disant, regardez, du côté français de Saint-Domingue, le futur Haïti, on a des grandes plantations, du déboisement et donc une catastrophe climatique. Et à l'inverse, côté espagnol, on a plus d'arbres et le climat se porte mieux. Et on retrouvera ce discours de l'effondrement environnemental d'Haïti, ressassé ad nauseam par les néo-malthusiens américains du XXe siècle.
Jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à Jared Diamond, qui fait tout un chapitre là-dessus, sur des chiffres qui sont faux, en disant qu'il n'y a plus que 1% ou je sais plus 2% de couvert forestier en Haïti, alors que les géographes disent non, en fait, il y a plutôt 30%, ce qui est, ma foi, le même taux forestier que la France, c'est deux fois plus que l'Angleterre. Enfin, il n'y a pas de catastrophe forestière, contrairement à ce que racontent les néo-malthusiens. Donc, ce qui est frappant, c'est l'antiquité des tropes sur l'habité coloniale.
Et Fabien Lechet, vous expliquez que non seulement les élites coloniales sont désireuses de contrôler les forêts, les déserts, les savanes pour les mettre en valeur, mais que les peuples colonisés, hein, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, sont accusés d'avoir dégradé leur climat. Vous parlez carrément d'éco-racisme.
Oui. Alors avant, je voudrais revenir sur ce qu'on vient de dire en soulignant qu'il y a un personnage quand même qui, de façon originale, lie la critique de l'impérialisme, la critique de l'esclavage et un discours sur le changement climatique, c'est Alexandre Humboldt, qui, dans ses voyages en Amérique, dénonce le colonialisme, et notamment, en l'occurrence, le colonialisme espagnol, en disant, regardez, on parle de barbares, mais c'est vraiment nous, les Européens, qui sommes barbares, puisque nous détruisons à la fois des cités, des peuples et des climats. Donc il y a quand même aussi, dans cette histoire-là, quelques acteurs qui sont porteurs d'une critique du colonialisme et de l'impérialisme sur une base climatique. Alors pour revenir, oui, à l'accusation portée vis-à-vis des indigènes, pour reprendre le terme colonial, c'est très fort dans le Maghreb dès le début, dès les années 1840-1850, avec un discours qui explique que les populations arabes du Maghreb ont dégradé le climat du Maghreb, ont détruit ce qui était le climat du temps des Romains, lorsque l'Algérie, disent les colons français, était le grenier de Rome. Donc c'est une accusation qui est vraiment éco-raciste, au sens où on a vraiment un discours sur la race, entre guillemets, je mets toutes les guillemets possibles, je reprends les expressions des acteurs, la race des Arabes qui serait fainéant, fataliste, irrationnel et qui aurait dégradé les forêts et donc le climat. La race, avec tous les guillemets possibles, la race des Kabyles, disent les colons, qui eux seraient plus raisonnables, auraient conservé leurs forêts. Et puis enfin, les races européennes, qui elles sauraient bien gérer la nature, avec notamment un discours qui explique que la colonisation, en fait, est une restauration de la nature, une restauration des forêts et une restauration des climats. Donc les colonisateurs se posent comme ceux qui vont restaurer la nature, contre toute évidence, hein, puisqu'au même moment, ils vont confisquer les forêts des communautés et mettre en place des systèmes intensifs d'exploitation.
Jean-Baptiste Risseau.
Deux précisions. Premièrement, ces terres soi-disant déforestées par les Arabes, en fait, par les études de palynologie, par l'étude des pollens fossiles, on sait qu'elles n'avaient pas été forestées depuis des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Donc c'était visiblement pas une responsabilité humaine. Et deuxième chose, il faut bien voir que la colonisation française a été désastreuse pour l'environnement algérien, avec toute la guerre de Razia, où les troupes coloniales françaises coupent les arbres des vergers, tuent les troupeaux, donc qui sont évidemment responsables en grande partie de la dégradation de l'environnement, s'il y en a une. Et troisièmement, les colons français sont frappés par les immenses famines qu'il y a en Algérie dans les années 1866-67. Alors c'est vraiment un énorme drame démographique. On a du mal à savoir exactement combien de personnes sont mortes, mais ce serait un quart ou un tiers de la population algérienne qui aurait disparu en quelques années. Donc c'est vraiment une énorme catastrophe. Et finalement, dire que les Arabes ont dégradé le climat, c'est aussi une manière de retourner un petit peu la responsabilité. C'est pas les Français qui ont mal géré la crise, qui n'ont pas amené les céréales qu'ils auraient dû amener, etc. Non, c'est en fait les Arabes qui ont créé la propre catastrophe.
Il y a le même phénomène en Afrique occidentale, Fabien Lechet.
Tout à fait. Alors après, on a une diffusion de ce discours, de ces visions, de ces justifications de la colonisation, à la fois dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne, mais aussi dans les colonies britanniques, en Afrique du Sud, au Kenya, en Inde, dans les colonies allemandes d'Afrique aussi. On a ce discours qui circule d'ailleurs entre les empires, en fait, avec des forestiers, des experts, des administrateurs qui passent, voilà, qui voyagent, qui font des explorations, des voyages aussi de formation, des visites de courtoisie. Donc on se rencontre entre coloniaux de différentes nationalités et on a une circulation de ce discours. Par exemple, les Britanniques expliquent que le grand désert du Kalahari a été en fait créé par le déboisement que les indigènes ont suscité. Donc ça leur permet d'imposer des règlements très stricts qui interdisent en fait aux communautés locales d'aller prendre du bois de chauffe, d'aller chasser, d'aller ramasser des baies en forêt, donc d'imposer ce qu'on appelle les restrictions de droits d'usage aux communautés. Donc on a vraiment deux choses qui vont de pair, à la fois la mise en ordre de la nature, une coercition sur les communautés, et puis en même temps un discours sur le changement climatique que les indigènes auraient causé et qu'il faudrait contrer. Une espèce de grand récit qui lie nature et colonisation.
Alors, cet agir climatique devient une des justifications, comme vous venez de l'expliquer, de la colonisation. Comme vous l'écrivez, le destin d'une goutte d'eau fait et défait les empires. Et cela persiste aujourd'hui, comme nous le verrons juste après ce moment en compagnie du musicien Flavien Berger.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Dame color don músico, una gama de notas sale del ordenador, sale del ordenador. Bellas cintas de colores me enredan, eso es morado y amarillo. Llegan y se va el dolor, llegan y se va el dolor.
Et psychédélique Flavien Berger dans C'est pas du vent sur RFI.
RFI.
Tant qu'on continue de penser la forêt comme un poumon, on n'a pas commencé à comprendre le problème. C'est bien l'ennui de la réifier et de considérer que la forêt est un organe qui remplit une fonction pour l'humanité.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
La forêt, c'est pas quelque chose qui est utile au monde, c'est le monde en tant que tel.
Et nous recevons les historiens Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher pour leur livre « Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle » publié aux éditions du Seuil. Alors dans votre livre, il y a une carte de l'Afrique qui date de 1935 intitulée « L'avancée du Sahara et le projet de deux ceintures de forêt pour l'arrêter et améliorer le climat des colonies britanniques et françaises d'Afrique de l'Ouest. Eh bien, c'est sidérant de voir à quel point le tracé est le même que celui de la Grande Muraille Verte, ce projet relancé par Emmanuel Macron lors du One Planet Summit le 11 janvier. On l'écoute.
Ce dont nous parlons aujourd'hui est pour moi clé de l'avenir de toute la région soudano-sahélienne. Comme vous le savez, la France est très engagée sur les sujets de sécurité et de stabilité de cette région. Mais cette sécurité n'est pas durable si on ne fournit pas un avenir soutenable aux populations qui vivent sur place. Et donc nous avons clairement un enjeu d'opportunité économique dans toute cette région et de création d'emplois. Nous avons un enjeu d'alimentation des populations qui s'est encore accru avec les déplacements de population, les crises et, si je puis dire, la pandémie qui est venue encore aggraver ce que le terrorisme faisait vivre à toute la région. Nous avons un enjeu de biodiversité, de lutte contre la désertification, et nous avons un enjeu de lutte contre le réchauffement climatique. Tous ces défis sont réconciliés dans la réponse que la Grande Muraille Verte apporte, parce qu'elle permet justement de développer des synergies qui répondent à chacun de ces points. En réalisant les objectifs de l'initiative à l'horizon 2030, c'est 100 millions d'hectares de terres dégradées qu'on restaure, c'est la capacité à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et à créer 10 millions d'emplois. C'est-à-dire une part de la réponse du défi économique que j'évoquais, évidemment une part de la réponse pour la biodiversité, mais aussi la contribution réelle, concrète, du continent africain à la lutte contre le réchauffement climatique.
Fabien Locher, comment réagissez-vous avec votre regard d'historien à cette initiative d'Emmanuel Macron de relancer la Grande Muraille Verte pour lutter contre la dégradation des sols des pays du Sahel, donc de Dakar à Djibouti ?
Alors c'est vrai que c'est assez étonnant parce que dans le livre, on montre cette carte qui en fait avait été produite par un grand forestier britannique, Edward P. Stubbing, qui proposait précisément de faire une grande muraille d'arbres pour changer le climat en fait sahélien. Et c'était la réponse qu'en fait, en tant que forestier colon, la réponse qu'il faisait contre ce qu'il considérait être la dégradation des forêts locales par les populations et donc la dégradation climatique causée par les populations. Donc on a une rémanence avec de ces discours, de cette espèce aussi de pensée un peu prométhéenne, qu'on va pouvoir changer le climat, arrêter le désert, voire même faire reculer le désert, le fertiliser, et c'est une continuité qui est frappante. Alors d'un autre côté, il ne faut pas non plus plaquer le passé sur des choses actuelles. On n'est pas forcément ici dans un projet qui est par essence colonial. Il a sans doute ses vertus, ce projet, mais cette histoire qu'on retrace dans le livre avec Jean-Baptiste nous met quand même en garde contre les espoirs déçus de ce genre de macro-projet à dimension technocratique sur des zones qui ont la taille de continents, cette espèce donc de vertige à imaginer qu'on peut agir sur de telles surfaces par des grands travaux. Voilà ce que l'histoire nous met quand même en garde, parce que finalement ces forestiers coloniaux, mais alors grands projets ont fini finalement en déconfiture et leurs rêves se sont perdus dans les sables. Donc voilà, il faut aussi se méfier en fait finalement de ce gigantisme, de cet amour du gigantisme.
Alors là, c'est sûr que la manière de relancer ce projet est beaucoup plus tournée vers les attentes des populations, par du terrain. Enfin, il y a quand même une autre approche, heureusement, que celle du 19e siècle, et les décideurs africains sont bien sûr largement associés à ce projet. Jean-Baptiste Fressoz, on a cela dit l'impression quand même que l'histoire se renouvelle et que l'attention passe par exemple dans ce genre de projet du ciel au sol.
Alors par rapport à ce projet, je dirais que c'est très controversé quand même, y compris localement, parce que planter des arbres en zone aride, en fait, ça peut avoir des effets pervers, comme par exemple assécher les nappes phréatiques, puisque les arbres pompent de l'eau, donc ça peut réduire en fait finalement la possibilité de faire l'agriculture pour les paysanneries locales. En outre, ça met aussi un petit peu la figure de l'autochtone qui serait ennemi de l'arbre, figure très ancienne et que les anthropologues et écologues ont largement relativisé en montrant qu'en fait, en zone aride, souvent, les arbres, ils sont là parce qu'il y a des humains, en fait, parce qu'ils en ont besoin pour avoir de l'énergie, pour avoir du bois, pour faire paître leur troupeau. Donc, c'est plutôt des sortes de plantations d'arbres, en fait, bizarrement. Disons que c'est vrai qu'on est quand même dans un imaginaire qui est assez daté, qui est un imaginaire éco-moderniste, qu'on retrouvait très bien, par exemple, dans l'URSS des années 30, le grand projet d'amélioration de la nature de Staline, c'était déjà ça. On retrouve ça dans l'Algérie de nationaliste de Boumédienne, où on va faire un barrage vert contre le Sahara. En Chine, dans les années 70, il y avait cette idée aussi de faire une grande muraille verte contre le désert de Gobi. Donc c'est vrai que c'est des grands projets technocratiques qui sont revitalisés par la question du changement climatique. Et là, je trouve qu'il y a quand même un vrai danger. On le voit bien, par exemple, dans le discours de Scott Morrison, le premier ministre australien, qui est un des gros, enfin l'Australie, c'est un des grands exportateurs de charbon, qui a une responsabilité considérable dans le changement climatique, qui expliquait, c'est pas grave, on va planter 1 milliard d'arbres. Quand on voit ce qui se passe en Australie avec les immenses incendies, les méga-feux récents, on se rend bien compte que ce discours de la maîtrise du climat par l'arbre est extrêmement dangereux et très fragile.
Oui, alors on entendait aussi la semaine dernière Nicole Schwab, hein, qui est la fille du fondateur du Forum de Davos, qui réunit toutes les plus grandes fortunes et les plus grandes multinationales de la planète, lancer un grand projet aussi pour planter 1 milliard d'arbres. Ça semble un peu être une nouvelle forme de colonisation, de mettre comme ça, des parties des forêts d'Afrique centrale sous cloche pour compenser les émissions carbone des multinationales, ou faire des projets comme ça où on va replanter des hectares et des hectares dans des zones où il y a des gens qui habitent et qui ont leur mode de vie tout de même.
Surtout que ça donne l'impression qu'il y a un plan B par rapport à économiser les émissions de CO2, à réduire les émissions fossiles, qu'on va pouvoir les compenser. Effectivement, et les calculs des climatologues, c'est-à-dire s'il fallait que ça soit à l'échelle, il faudrait couvrir des surfaces absolument colossales, gigantesques. Et on n'a pas cette surface-là sans faire des déplacements en population, sans qu'il y ait énormément de problèmes pour les populations locales. Donc effectivement, c'est un discours qui à la fois semble vertueux, très séduisant parce qu'on a été acculturé à ça depuis des siècles en fait, et qui en fait, à mon avis, pervers.
Fabien Locher, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça rappelle le modèle des parcs nationaux, hein, qui a été une invention des parts vraiment coloniale et qui a mené à des déplacements de population, à des exclusions, à des restrictions de droits d'usage, avec ce motif selon lequel il fallait protéger la faune africaine. Alors avec ce paradoxe, c'est que la faune africaine, il fallait la protéger contre quoi ? Bah, essentiellement contre les chasses coloniales. Donc la colonisation crée les parcs et en même temps organise les chasses coloniales. Là, on est dans ce qu'on pourrait appeler des enclosures climatiques, hein, l'idée qu'on va mettre en réserve des forêts, des écosystèmes, pour le climat et avec en reproduisant cet acte d'exclusion. Donc on n'est plus dans l'enclosure pour protéger la faune, on est là dans des enclosures à destination d'une protection du climat, mais on voit que l'histoire effectivement se répète. Hein, Guillaume Blanc, un de nos collègues, a écrit un livre récemment qui s'appelle Le colonialisme vert sur les parcs nationaux. On retrouve dans son livre beaucoup de choses qu'on a dans notre livre aussi sur ce type de d'enclosure, c'est-à-dire d'exclusion des populations, de déplacement des populations.
Jean-Baptiste Fressos, vous vouliez parler aussi des migrants climatiques.
Disons que d'une manière générale, on voit que dans le discours du changement climatique, on se retrouve à blâmer l'autre, soit par la démographie. Quand on dit « ah oui, le problème, c'est la démographie », vu que la démographie est à tonne dans les pays du Nord, bon, ça veut dire qu'en fait, on met la responsabilité sur les pays d'Afrique subsaharienne, où c'est un des rares endroits sur la Terre où il y a encore une démographie un peu dynamique, alors qu'en fait, on sait très bien que la démographie n'a à peu près aucun rôle dans le changement climatique. On va aussi donc parler des arbres d'un coup. Donc évidemment, ça permet de déplacer la question vers l'Amazonie, vers le reboisement des zones tropicales en Afrique. Et on va aussi parler de réfugiés climatiques. Donc à travers ces trois notions, on voit bien comment la question du changement climatique est essentiellement en fait causée par les riches, ou par les pays riches et puis les riches des pays pauvres maintenant, on arrive à déplacer comme ça les causes et les responsabilités sur l'autre qui serait soit la cause, soit la menace avec cette figure du réfugié climatique.
Oui, donc du coup, il y a une grosse perversité dans tout cela. Alors l'ironie de votre livre, parce qu'il y en a une quand même, c'est que cette préoccupation climatique a cessé finalement au sein des élites occidentales à partir de la seconde moitié du 19e siècle, finalement à partir de la révolution industrielle qui, avec le développement du train, des canaux, des routes et des nouvelles méthodes agricoles, vont mettre fin aux disettes, mais vont aussi, et c'est là l'ironie, émettre les gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique actuel. Jean-Baptiste Fressos.
Effectivement, c'est-à-dire on voit bien que dans nos documentations, dans la seconde moitié du 19e siècle, L'anxiété qui était vraiment vive au début du 19e, fin 18e, début 19e, elle a tendance à s'étioler. Alors, il y a des raisons scientifiques importantes, l'évolution des sciences de la Terre, la théorie des grandes glaciations. Et puis, il y a des raisons qui sont plus pragmatiques. C'est tout simplement que les pays riches, pour l'essentiel, sont beaucoup moins vulnérables face aux aléas climatiques. Parce qu'il y a cette capacité d'importer des céréales, de déplacer des grosses quantités de céréales en cas de famine dans une région. Et donc, c'est sûr que l'infrastructure fossile nous rend beaucoup plus résilients face au changement climatique. Et c'est ça qui explique la difficulté de la situation actuelle et l'apathie générale sur la question du changement climatique. C'est ce qui nous a rendus résilients face aux aléas du ciel, qui maintenant détraque le climat. C'est toute la difficulté de la situation. Et ça montre aussi bien que cette affaire de changement climatique, c'est quand même essentiellement une question nord-sud. Ce n'est pas les pays du nord qui sont les premiers impactés, c'est eux qui ont les moyens de se prémunir des pires effets du changement climatique. Et pourtant, ce sont eux qui sont responsables du changement climatique.
Fabien Locher.
Oui, alors il y a plusieurs facteurs pour la sortie, on peut dire, de ces grandes angoisses climatiques qu'on décrit pour le 19e siècle. Il y a effectivement l'émergence des technologies fossiles avec ce paradoxe sinistre qui fait que finalement, c'est les technologies carbonées qui vont nous rendre apathiques vis-à-vis du changement climatique. Il y a aussi le fait que la climatologie historique et la climatologie tout court, en tant que science, à la fin du 19e, se construit en mettant cette question-là de côté. Tout simplement parce que les grands débats scientifiques du 19e portant sur le changement climatique n'ont pas réussi à déterminer s'il y avait ou pas une action de l'homme sur le climat, malgré des milliers de pages et des milliers d'heures de débats. Donc il y a une espèce d'aporie, c'est-à-dire les scientifiques, pour avancer, pour construire la climatologie scientifique, mettent de côté la question de l'agir sur le climat. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on écrit dans le livre, c'est la domination états-unienne post-1945 qui va imposer un nouveau paradigme de la dégradation, une nouvelle figure de la menace qui est plutôt la dégradation des sols et beaucoup moins la dégradation des climats. Après 1945, les experts de l'ONU, de l'UNESCO, de la FAO, de toutes les institutions de développement, le monde du développement va être complètement imprégné de l'idée de la dégradation des sols et de l'expertise sur la dégradation des sols, et on va mettre de côté cette question des changements climatiques. Comme on dit dans le bouquin, on va chercher au sol et plus au ciel l'origine des menaces. Et donc ça va nous faire basculer vers un nouveau régime d'inquiétude qui ne porte plus sur le changement climatique finalement. Mais je voudrais quand même insister sur un point, c'est que c'est vraiment fin du 19e siècle que refluent les angoisses climatiques en Europe, mais en Afrique, en Inde, en Asie, dans les mondes coloniaux, c'est vraiment plutôt dans les années 1930-1940 qu'on commence à avoir un reflux de cette angoisse des changements climatiques. Donc c'est quelque chose qui, dans le reste du monde, j'allais dire, est beaucoup plus durable finalement qu'en Europe. Et ça, c'est lié notamment évidemment aux relais coloniaux dont on a beaucoup parlé dans cette émission.
Merci à tous les deux d'être passés dans ces pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique 15e-20e siècle. C'est publié aux éditions du Seuil. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. Il y a une vie après l'émission. Vous pouvez retrouver nos invités sur la page Facebook de l'émission et interagir avec nous. Donc n'hésitez pas, nous serons ravis de vous lire. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Tok di kha solution mu ja fe lo si dunia le réchauffement climatique et ses conséquences sécheresse érosion côtière disparition d'espèces famine pauvreté maladie exode migration. Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre temps et la plus grande menace pour l'humanité. Peu importe où nous vivons, le climat n'a plus de frontières. Pour une solution globale et solidaire à ce dérèglement mondial, préservons notre environnement et nos ressources naturelles. Consommons et produisons utilement et concilions développement, qualité de vie et environnement en mettant en avant l'intérêt général de l'humanité.
Le goût du monde.